Chapitre 3 Les hommes, le sport et la politique. Ce n'est pas seulement avec les femmes que les hommes ont l'occasion de prouver leur bon sens et de l'éprouver. Les réunions où les femmes ne sont pas admises, le bon sens y rayonne-t-il seul et constamment d'une lumière éblouissante? À la vérité, on ne voit pas les hommes se réunir entre eux à l'écart des femmes pour la plus grande gloire et le triomphe du bon sens. Le principe de telles réunions, c'est le plus couramment de jouer aux cartes ou de déguster quelques fins repas. L'attention que nécessite une dégustation réfléchie ou une combinaison de cartes difficile et hasardeuse, voilà pourquoi il souhaite tant de n'être pas dérangé et à quoi, estime-t-il, risquerait de nuire et d'apporter le trouble quelques présences féminines. L'attention, la réflexion, la méditation même ne sont pas nécessairement les voies du bon sens. Qui empêchera que l'attention se soit sollicitée et retenue par des objets indignes ou absurdes, que l'on réfléchisse dans le vide, que l'on ne médite la sottise, la vésanie ou le néant? Notre esprit est toujours comme à la merci d'un téléphoniste farceur. De préférence, il est vrai, une demoiselle du téléphone, qui lui branche la communication avec n'importe qui, n'importe quoi, se plaisante aux pires confusions, aux imbroglios les plus fâcheux, les plus déraisonnables. Il faudrait obtenir que ce fût le seul bon sens, le bon sens lui-même en personne, qui, assistant notre esprit, lui donna toutes ses communications, fût le maître exclusif de leur direction et de leur correspondance, demeura en permanence au standard. Mais comment l'obtenir et de qui l'obtenir? Il ne dépend pas de nous d'avoir du bon sens, mais de le conserver et d'en user à propos. Et c'est ici que nous constaterons la valeur sociale du bon sens, son aspect objectif, expliqueraient les philosophes, c'est-à-dire que l'usage du bon sens s'exerce en public, et que ce n'est pas nous, mais les autres qui, en dernier ressort, ont à connaître de notre bon sens, qui l'apprécie et qui le juge. Qui saura si un homme dans une île déserte a du bon sens, puisqu'il n'y aura personne pour en bénéficier s'il en a, ou s'il n'en a pas pour en souffrir? Et comme j'ai dit que tout homme à l'origine, et loin des conjonctures contraires, emporte avec soi sa cargaison de bon sens, tu peux préjuger que dans son île déserte, cet homme n'aura que des pensées raisonnables, n'aura ni l'occasion ni l'envie de se montrer insensé. Ce qui est insensé, sans doute, ce qui est déraisonnable, c'est de s'en aller comme lui, dans une île déserte. La valeur sociale du bon sens, la nature, t'en apporte mille témoignages. C'est, entre mille autres, le cas présenté par le fabuliste du gland et de la citrouille. Oui, le bon sens, en tant qu'il est le gardien de l'équilibre, de la mesure, des justes proportions, le bon sens voudrait que, du gland et de la citrouille, ce fût le plus gros fruit le plus lourd qui fût suspendu à l'arbre le plus robuste. Le bon sens voudrait voir aux branches du chêne la citrouille, dont c'est la place normale plutôt que le gland. Et pourquoi, cependant, la nature, qui sait mieux que personne ce qui est normal, qui le sait par définition, assigne-t-elle en définitive au gland la place normale de la citrouille? C'est en prévision de l'homme, qui n'est pas, mais peut-être éventuellement, parti au débat, de l'homme qui, à première vue, n'a rien à démêler du gland, de la citrouille et du chêne, mais qui, le jour où il viendrait s'allonger sous le chêne, moins dangereusement qu'une citrouille, courait le risque de recevoir un gland sur le nez. On fait volontiers honneur à M. Tout-le-Monde d'avoir plus d'esprit que M. de Voltaire. On se trompe, c'est plus de bon sens qu'il faudrait dire. L'esprit est individuel, tandis que ce qui appartient à la communauté, c'est le bon sens. Sans bon sens, pas de société bien ordonnée, alors que tel individu, éminent par l'esprit, vivra en marge de la société et ne lui procurera aucun avantage substantiel. L'un n'exclut pas l'autre, mais la société a moins besoin d'hommes d'esprit que d'homme de bon sens. Les manifestations du bon sens sont toujours par quelque côté des manifestations sociales. Et quand le bon sens agit ou conseille, dans ses conseils comme dans ses actes, la société, c'est-à-dire ce fameux monsieur tout le monde, précisément, est rarement oubliée. N'est-ce pas le bon sens qui nous conseille d'ouvrir ou de fermer la porte, qui va répétant qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée? Au bénéfice de qui? À l'intention de qui? S'il s'agissait de l'individu qui est dans la chambre, on spécifierait la crainte des courants d'air pour fermer la porte, ou pour la maintenir ouverte, une température exceptionnellement clémente et la brise exquise dont il serait désolant de ne point profiter. Mais non! Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, et c'est le bon sens même. Ou pour te préserver les visiteurs, si tu es homme de solitude, ou pour que tous les passants soient sollicités d'entrer dans ta chambre, comme dans un moulin, si tu aimes et recherches la société. Et c'est encore le bon sens qui te dit qu'il n'y a pas lieu d'enfoncer les portes ouvertes. Mais si la porte est fermée, hermétiquement fermée, le bon sens te conseillerait peut-être de réfléchir à ce que tu pourras trouver derrière cette porte, avant de t'efforcer à l'ouvrir, coûte que coûte. Il te conseille, en tout cas, de vérifier sans impatience le fonctionnement de la serrure et de ne pas imiter les tentatives désespérées de ce personnage de roman qui, toute une nuit, les veines gonflées, les muscles tendus, furieux et congestionnés, cogne dans le battant, secoue la chambranle, bref, s'évertue à ouvrir en dehors une porte qui ne demandait qu'à céder à la première, à la plus douce pression, mais en dedans. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Il faut aussi qu'une porte s'ouvre en dedans ou en dehors. Et si tu épuises tes forces à l'ouvrir en dehors, sans vérifier au préalable si ce n'est pas tout simplement en dedans qu'elle s'ouvre, là aussi, tu manqueras de bon sens. Mais il y a la beauté de l'effort, objectera-t-on, même si cet effort est inutile. On n'enfonce pas les portes ouvertes, soit, mais une porte hermétiquement fermée, ou qui paraissait telle, et que tu jettes bas d'un coup d'épaule. Cela vous a tout de même une autre allure, que si tu dois te contenter de l'ouvrir ou en dehors ou en dedans. Le bon sens répond qu'il n'est pas partisan des démonstrations inutiles. À quoi cela sert-il? Répète-t-il le plus volontiers. Et on la lui reproche assez sa manie bassement utilitaire et pratique. On la lui reproche un peu trop, et injustement, que certains exploits soient en apparence inutiles, mais seulement en apparence, car ils portent en eux une utilité exemplaire. Le bon sens ne serait pas le bon sens s'il ne reconnaissait pas la valeur de l'exemple. Encore faut-il que cet exemple serve à quelque chose et n'obéisse pas ici au seul aiguillon du stupide orgueil ennemi né du bon sens. Je ne pense pas que ce que l'on appelle un tour de force soit un exemple à recommander ni à suivre. Et quand on me demande d'applaudir le malheureux qui croit accomplir quelque chose d'extraordinaire parce qu'il se tient en équilibre sur le sommet de la carlingue d'un avion en plein vol, j'accorde, si cela peut lui faire plaisir, que ce qu'il accomplit là est sans doute extraordinaire, mais n'est pas raisonnable. Et que de complications dans ces tours, que de mal tous ces gens se donnent pour se tenir aussi loin que possible des limites de la raison. Depuis le cycliste qui démonte ses roues, démonte sa selle et chevauche son guidon, après avoir pris soin, bien entendu, de le retourner devant derrière, jusqu'à ce gymnaste qui se balance en tenant à pleine mâchoire la ceinture de son partenaire qu'il balance avec lui, ou à l'équilibriste qui place les uns sur les autres les objets les plus hétéroclites et lui par-dessus. À la vue de ces appareils prodigieux au nickel étincelant que combinent certains acrobates pour représenter dans les cirques un numéro sensationnel, notre curiosité pourra être piquée au vif. Mais vous ne supposez pas que notre bon sens y trouvera son compte. Encore cela, c'est leur métier. Ils font cela pour gagner leur vie, et si le bon sens N'ai-je jamais proféré cette absurdité monstrueuse qu'il n'y a pas de sot métier? Il est bien forcé de reconnaître qu'un métier, si sot soit-il, on est bien forcé de l'exercer pour gagner sa vie, quand on n'en a pas d'autre. Mais il y a les amateurs, et de quoi se mêlent-ils? Qu'est-ce qui les prend? Il y a l'alpiniste qui, sans guide, s'élance à l'escalade d'un pic inaccessible, rôde dans une crevasse et ne retrouve plus le chemin de retour, se perd dans les neiges et meurt de froid. Il y a le nageur intrépide qui, sourd aux appels du maître baigneur, dépasse les limites du bain surveillé, gagne la pleine mer et est emporté par une lame de fond. Le bon sens ne vous interdit ni la nage ni l'alpiniste. Il ne vous interdit aucun sport, et bien au contraire. Le bon sens est trop l'ami de l'hygiène pour ne pas tomber d'accord que la jeunesse d'autrefois, si peu sportive, était élevée en dépit du bon sens. Faites du sport, recommande le bon sens, mais dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que le bon sens apporte à toutes ses recommandations. Faites du sport, mais en proportion de vos forces. Faites du sport, mais modérément. Et voilà qui suffit à nous indiquer tout de suite qu'il y a ici une notion à laquelle le bon sens restera obstinément rebelle, qui demeurera pour lui le type même de ce que l'on ne peut raisonnablement proposer, raisonnablement accepter, supporter. C'est la notion du record. Battre un record, ce sont les gens qui prétendent battre des records qui sont à battre. L'idée et la passion du record sont d'abord liées aux notions de distance et d'altitude. C'est-à-dire que dans les limites du paradis terrestre, le premier homme, apparemment, ne songeait guère à battre des records de marche. Ce ne peut être qu'à partir du moment où il a été chassé du paradis, qu'il s'est peu à peu préoccupé, lui puis ses descendants, d'aller toujours plus loin et toujours plus vite. Il est remarquable, en effet, que la préoccupation qui, chez les hommes, semble dominer toutes les autres, c'est celle de la vitesse obtenue soit par leurs propres moyens, soit par des instruments et des appareils de locomotion, au perfectionnement desquels ils appliquent le meilleur de leur ingéniosité et de leurs facultés inventives. Les hommes tâchent d'améliorer, de renforcer leurs muscles pour courir plus vite. Et la plupart des machines qu'ils inventent, c'est dans le but d'atteindre le plus rapidement possible à la distance la plus éloignée. Le bon sens assiste avec impatience à ces expériences et à ces tentatives saugrenues. Si loin, si vite que nous nous sommes avancés, et puis après, nous serons bien avancés. Nous avons exploré d'un rythme sans cesse accru les régions de la Terre les plus reculées. Nous avons réussi à nous élever dans les airs et à nous enfoncer dans les eaux. À travers les flammes même, nous sommes capables de nous élancer, de progresser. Eh bien, désormais, qu'allons-nous faire? Va-t-il falloir créer un cinquième élément pour qu'il ne soit un prétexte à des records nouveaux? Notez que l'aboutissement de tous ces records, ce n'est même pas une curiosité satisfaite, une difficulté vaincue. C'est un chiffre. Toute la volonté persévérante des hommes et ce qu'ils poursuivent sous le nom de progrès est moins qualitatif que quantitatif, ou pour parler plus simplement, se ramène à un énoncé d'arithmétique. L'arithmétique, au total, domine les hommes. Ils espèrent, ils s'efforcent, ils travaillent, ils triomphent pour l'arithmétique. De quoi s'agit-il? Vers quoi sont tendus tous ces esprits frémissants et exaspérés? Et il s'agit d'arriver une minute, une seconde, un quart de seconde plus tôt, de s'élever seulement de 50 mètres, de 10 mètres, d'un mètre plus haut. Et le bon sens consisterait à ce que cette importance décisive fût accordée à un mètre ou à une seconde, comme si le bonheur des hommes en devait dépendre de l'avenir de l'humanité. Le bon sens est le premier à reconnaître que 2 et 2 font 4, et que 4 est supérieur à 2. Mais où a-t-on pris qu'il y avait à se targuer d'une supériorité de cet ordre et de cette nature? 4 est supérieur à 2, même à 3. Et sans doute est-il normal que, pour un point, Martin ait perdu son âne. Ce que le bon sens trouve inadmissible, c'est qu'on risque son âne sur une différence d'un point. Or, les hommes, sur un point, risquent bien d'autres choses, y compris la chose publique. Martin perd son âne pour un point, et Marianne, sa tranquillité, sa prospérité, son hégémonie. Le sort d'une nation, d'un gouvernement, qui se joue exactement de la même façon que l'âne de Martin, est-ce raisonnable ? Il est difficile de tenir la loi du nombre pour une loi de bon sens. Et pourtant, il est constant que c'est le nombre qui fait la loi. Suffrage restreint ou suffrage universel, on commencera toujours par compter les suffrages, et la victoire d'un parti n'est que le total d'une addition. Et sans doute conviendrait-il d'abord qu'il n'y eût pas de parti, ou qu'il n'y eût de parti dans la nation que comme le melon à ses côtes, et qui toute forme un seul, un même melon, également odorant, également succulent, dans chacune d'elles, prise ensemble ou séparément. Rien n'est plus contraire au bon sens que de poursuivre en détail la ruine des uns par les autres, que de tout faire pour se nuire et s'exterminer les uns après les autres, quand on proclame, et de bonne foi, n'avoir en vue que le bien des uns et des autres. Car on peut manquer de bon sens et ne pas manquer de bonne foi. Et j'accorde que tous les partis sont sincères, au moins dans le principe, et tendent par des chemins différents, mais avec les mêmes intentions excellentes, vers un même but, justement et pareillement, souhaitable. Que, s'il ne procède pas d'un idéal identique, doit produire d'identiques effets pour la félicité de tous. Alors, qu'avons-nous à nous diviser, et puis encore à nous injurier ? Car s'il y a un but commun, il y a surtout une politique commune à tous les partis. C'est la politique de l'injure. Avant même d'annoncer ce que l'on fera, on accuse les autres de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils n'ont pas fait ou de ne rien faire. Le parti adverse est un parti de concussionnaires, d'ennemis du peuple, traîtres à la patrie, vendus à l'ennemi, à quelque parti que tu appartiennes, en sorte que, de quelque côté que tu te tournes, on ne te montre et tu ne vois que des concussionnaires et des traîtres, des ennemis du peuple et des vendus. Et c'est cela qui n'a pas de bon sens. Les paysans du Nivernais ont accoutumé de dire de leurs voisins du Berry que 99 moutons et un berria, ou berrichon, font 100 bêtes. Locution que les berrichons ou berria ne manquent pas de transformer à l'usage des Limousins, qui leur disent des Nivernais, ainsi de province à province. Mais on propose de modifier la sentence, qui les mettra tous d'accord, et d'affirmer que 99 électeurs, et fussent-ils aussi bien ceux-là du Nivernais, ou du Berry, du Limousin, ou de n'importe quelle province au choix, 99 électeurs et un insensé, cela fait 100 insensés. Un simple bulletin de vote enfermerait-il donc de telles propriétés nocives que, sans même qu'il ait été nécessaire de le rouler et de l'avaler comme une pilule, rien qu'au toucher, rien qu'en le prenant et en le pliant entre ses doigts, on devienne complètement fou, ou pour le moins atteint de quelques passagères, mais sûres et certaines vésanies. Ces isoloirs que l'on dispose dans les salles de vote à l'usage des électeurs, n'as-tu pas été frappé de la modification légère qui suffirait de leur faire subir pour les aménager en cabanon? Et si l'on profitait du passage de l'électeur pour lui passer à lui la camisole de force? Alors vous estimez qu'il n'y a que les fous qui votent, soit qu'ils aient été fous avant, ce pourquoi ils ont été votés, soit que, saint d'esprit avant le scrutin, ils n'aient pu résister à la folie qui saisit aussitôt, après et pendant, tous les imprudents qui y participent. En résumé, si tu n'es pas fou, et si tu souhaites d'éviter de le devenir, fuis la politique comme la peste. Ainsi te conseille le bon sens, et tu es perdu pour lui et lui pour toi, si tu n'écoutes pas son conseil. Mais prends garde que ce que tu donnes ici pour le conseil du bon sens n'est en réalité que le conseil de Gribouille. La crainte d'être gagné par la folie collective des faiseurs de politique te livre à des fous. Et je refuse de croire que le bon sens te pousse à cette désertion, qui est une lâcheté et qui est une sottise. Si les hommes de bon sens se décidaient à faire de la politique, que feraient-ils? On ne sait guère, et il est bien vrai, que peu de pays ont jamais eu l'occasion d'expérimenter ce que pourrait être la politique du bon sens. Tout au plus, le bon sens dans la politique apparaît-il par lueur, par bouffée. Et s'il se manifeste, c'est moins par ce qu'il accomplit que par ce qui l'empêche. Il n'y a pas de système politique établi par le bon sens. Mais sans doute pourrait-on envisager un système politique dont le bon sens s'accommoderait, dont il ne semblerait pas systématiquement exclu. Qu'on l'installe sur un trône, qu'on le nomme dictateur ou président d'une république, l'homme de bon sens est celui qui fera appel au bon sens du peuple, non à ses passions. Négligeant de flatter les passions, populaires, ce sont les gens sensés qu'il faudra satisfaire, sur qui d'abord il faudra s'appuyer. Reste à savoir si ceux-là seuls suffiront à le soutenir, si même ils y consentiront. On a beau ne pas ignorer que la proportion du pain et du beurre ne permet pas de donner plus de beurre que de pain, on aime à entendre promettre cette surabondance de beurre à côté du pain. Il est même arrivé que cette promesse d'une plus grande quantité de beurre faisait oublier que le pain n'était pas en quantité suffisante, et que par conséquent, il manquait même complètement. Un peuple vit avec des réalités, mais on le gouverne avec des promesses. Cela dure ce que cela dure, mais quand cela ne peut plus durer, on en est quitte pour changer de gouvernement, qui consiste à changer la forme gouvernementale tout en conservant les mêmes méthodes. N'a-t-on pas observé le rôle prépondérant que jouait la lune dans les rêves des hommes? Il ne s'agit pas de la décrocher avec les dents, mais monter jusqu'à elle apparaît toujours le record suprême, et la promesse suprême, c'est aussi la lune. En sorte que le jour où la lune ne nous ménagera plus de contrées inconnues, où l'espoir de découvertes surprenantes ne nous y attirera plus, où atteinte et explorée jusqu'en ses moindres recoins, on ira dans la lune et on s'y promènera comme à Bois-Colombes ou dans le bois de Meudon. Est-ce à dire que les rêves des hommes seront désormais satisfaits, que les hommes limiteront et arrêteront là, une fois pour toutes, leur record de hauteur, de même que tenant la lune et par conséquent n'ayant plus à attendre qu'on la leur promette, ils n'éprouveront plus le besoin de changer de gouvernement? Mais soyez assurés que la Lune ne sera encore qu'une étape vers de nouveaux records et des promesses renouvelées. Ce que l'on appelle le jeu des institutions ressemble assez au jeu des montagnes russes, où l'intérêt du jeu réside dans l'incertitude de s'y trouver emporté avec une rapidité vertigineuse, tantôt en haut, tantôt en bas. Et les révolutions et les hiérarchies organisées par les différents régimes politiques ne sont qu'un manège de montagnes russes, quand en matière politique, administrative, gouvernementale, on parle de l'ordre établi. On doit l'entendre comme du parcours des montagnes russes, qui lui aussi a été établi par un constructeur facétieux, qui n'avait pas manqué par avance d'en prévoir tout l'imprévu. Tu t'étonnes que le danseur prenne la place du calculateur. Montagnes russes! Et pourquoi te scandaliser? Rien ne dit que telles ou telles contingences, auxquelles raisonnablement on ne pouvait s'attendre, ne surviendront à cette place même, assurant aux danseurs une réussite brillante que le calculateur était incapable d'obtenir. Le bon sens, en pareille matière, n'est certes pas de mettre le danseur à la place du calculateur, mais de tâcher à cette place de tirer le meilleur parti du danseur, si on l'y a mis, et surtout de ne point poser en principe qu'il ne s'en tirera pas. C'est de cette façon qu'en politique, et pas seulement en politique, le dernier mot peut toujours rester au bon sens, comme dans Candide à l'optimisme. Le bon sens n'est pas optimiste, mais opportuniste. Un des premiers soins de nos révolutions n'avait-il pas été de diviniser la raison? Ce qui l'empêche que le bon sens ne fut jamais peut-être aussi peu respecté qu'au temps où la raison était déesse.